This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle édition de 90 Minutes Info. Le débat commence juste après. Un rappel des titres, il est signé Somaïa Labidi. Bonjour.
Explosion rue Saint-Jacques, un corps retrouvé dans les décombres. Les recherches avaient dû être temporairement interrompues ce week-end, le temps de renforcer la solidité d'un immeuble mitoyen. Une femme est portée disparue depuis le drame qui a survenu mercredi dernier, mais compte tenu de l'état dégradé du corps retrouvé, il n'est pas possible de l'identifier pour le moment. Un jeune de 17 ans est mort après un refus d'obtempérer à Nanterre. Vers 8 h ce matin, un policier a fait usage de son arme sur un véhicule qui lui fonçait dessus. Un passager est en garde à vue, un troisième est en fuite. Selon les premiers éléments de l'enquête, le policier était placé à l'avant du véhicule et non pas devant. Deux enquêtes ont été ouvertes, dont une pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique et confiée à l'IGPN. Et puis le Covid-19 n'a pas disparu, prévient l'OMS Europe. Il ne faut pas baisser la garde face au virus, ajoute le bureau européen. Même s'il n'est plus une urgence sanitaire mondiale, près de 1000 nouveaux décès dus au Covid-19 continuent de se produire chaque semaine en Europe.
C'est à la une aujourd'hui. Emmanuel Macron qui poursuit son déplacement marseillais au contact des enseignants et des personnels de santé aujourd'hui. L'éducation, deuxième priorité pour la ville. Et puis nous parlerons de ce terme de laboratoire pour l'école du futur qui ne passe pas toujours, vous l'entendrez, auprès des acteurs directs du secteur.
Vous les avez. Une famille qui habite ici, elle n'a pas les mêmes chances qu'une famille qui est dans les quartiers sud. La question c'est est-ce que la même école permet de corriger des inégalités de départ? La réponse est non. Vous avez aujourd'hui un système scolaire qui est plus déterministe qu'il y a 30 ans.
Au lendemain de l'annonce de sa mise en place, l'amende forfaitaire pour les consommateurs de drogue avec paiement immédiat laisse toujours un peu perplexes les policiers qui seront chargés du recouvrement. Ainsi, Linda Kebab.
Je trouve ça tellement dommageable de demander aux policiers, finalement, qui sont déjà surchargés, qui ont énormément de matériel sur eux, de protection, de constatation, les tablettes, l'armement intermédiaire. Nos collègues policiers aujourd'hui, qui sont des policiers, des agents et des officiers de police judiciaire, on va leur demander en fait de devenir des agents du fisc.
Enfin, après l'avis favorable émis par le rapporteur du Conseil d'État pour le port du hijab dans le foot, les réactions sont très vives, y compris du côté de la place Beauvau.
On n'a pas à porter de vêtements religieux lorsqu'on fait du sport. Donc j'y suis très opposé. Et évidemment, ce serait un coup de canif très fort contre le pacte républicain que de le permettre.
Et voilà, en place pour accueillir les invités du jour. Bonjour Mickaël Sadoun. Je rappelle que vous êtes chroniqueur, consultant. Merci d'être parmi nous cet après-midi. Sophie Audugé est là également, déléguée générale de SOS Éducation. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Christopher Weisberg, bonjour. Vous êtes député Renaissance des Français de l'étranger. Élodie Huchard pour m'épauler à nouveau pour la partie politique et décryptage. Et puis Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Marseille en grand, donc vous l'aurez compris, ça se poursuit, un périple de 3 jours pour le président de la République dans la cité phocéenne. Place à l'éducation désormais, avec la réhabilitation du parc scolaire, le développement aussi de nouvelles pédagogies. Ce matin, visite d'une école primaire dans les quartiers nord pour le chef de l'État, une école qui est en cours de rénovation. Mais en tout, il y a 28 chantiers de la sorte qui verront le jour pour un coût d'environ 1,5 milliard euros. Regardons ce qui est en jeu dans ce reportage.
Entre les poignées de main et les selfies, le président a rencontré de jeunes élèves enthousiastes. Mais s'est aussi frotté à des questions épineuses.
Tu peux appeler un papier ?
Tu veux qu'il vienne à Marseille ?
Oui !
On n'y arrivera pas à ça.
En visite dans une école primaire en cours de rénovation à Marseille, Emmanuel Macron a fait état de l'avancement du plan école, où 60 établissements doivent être rénovés d'ici 2026. Il a pu échanger avec les différents acteurs de ce grand chantier.
Mais je pense qu'on est aussi en capacité d'inventer une structure du 21e siècle et une signature architecturale un peu homogène.
On travaille.
Il faut qu'on arrive à faire que ces écoles 2030, si je puis dire, elles aient une identité architecturale qui soit propre à nos générations et aux générations qui arrivent et qui correspondent d'ailleurs à l'école qu'on veut.
Le président s'est également exprimé sur les inégalités au sein des écoles.
La question, c'est est-ce que la même école permet de corriger des inégalités de départ ? La réponse est non. Vous avez aujourd'hui un système scolaire qui est plus déterministe qu'il y a 30 ans. Donc ça montre que le système que certains défendent en la main sur le cœur disant égalité, égalité, ça marche plus. Hypocrisie, hypocrisie, moi je réponds.
Depuis le lancement de la première phase du plan Marseille en grand, 28 chantiers de construction ou de rénovation d'écoles ont été lancés pour un budget global d'1,5 milliard d'euros.
Sophie Audugé, on est là, bien sûr, on touche là à votre domaine de prédilection. Là, on a des extraits un peu hors contexte, c'est pas tout à fait exhaustif. Sur la philosophie de ce que souhaite le chef de l'État aujourd'hui, pour Marseille, et on l'a bien compris dans la globalité, pour l'ensemble du territoire in fine, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous comprenez cet esprit ? Est-ce que c'est dans ce sens que doit aller notre système éducatif ?
Alors, pour l'instant, il a rien dit, hein, comme souvent avec Emmanuel Macron. En fait, c'est beaucoup de mots et puis rien de vraiment très concret. Ce que je note néanmoins, c'est le hypocrisie en parallèle d'égalité. Ce qui me semble important, c'est quand même de rappeler que l'augmentation massive des inégalités s'est faite à partir du moment où le pédagogisme a pris la place de l'instruction. Je prendrai également un autre exemple qui me semble marquant. C'est par exemple ce plan de 2,3 milliards d'euros pour soi-disant la fracture numérique, dont la Cour des comptes a dénoncé des coûts exorbitants, qui n'a fait qu'une chose, c'est aggraver les inégalités sociales. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que les familles les plus éloignées de l'école, les familles les moins informées sur le développement de l'enfant et des besoins de l'enfant, mettaient beaucoup trop leurs enfants devant les écrans. Des travaux récents, notamment de Michel Lémurger, ont montré que des enfants de moins de 2 ans passaient en moyenne 3 heures par jour devant des écrans, tout écran confondu. Concrètement, entre 2 et 8 ans, une partie des enfants passe entre les trois quarts de leur temps éveillés devant les écrans.
Donc on a mis la charrue avant les bœufs.
Bah, déjà, si vous voulez, sur l'âge, c'est que les bonnes idées, soi-disant, sur l'argument des inégalités, concrètement, aujourd'hui, ça accroît massivement les inégalités. Et là, le meilleur moyen de réduire les inégalités, c'est de revenir pour ces enfants-là, des milieux qui sont les plus éloignés de l'école, à un modèle d'instruction qui se consacre exclusivement à ce qu'à la fin du CM2, ils sachent lire, écrire, compter, et raisonner sur des textes simples.
Christopher Weisberg, je reviens vers vous dans un instant. Macron s'exprime devant les personnels hospitaliers. On va l'écouter quelques instants.
Et donc au total, collectivité et État, c'est un financement de 369 millions d'euros dont a pu bénéficier la PHM. Pour autant, cet investissement étant fait, ajouté à l'ensemble des mesures qui figurent aussi dans le Ségur et ce qui a pu être décidé, les réformes conduites sous l'autorité du ministre, il est clair que le contexte que nous connaissons, les coûts qui augmentent, l'accélération des besoins, nous ont conduit à revoir les choses, et c'est pourquoi j'ai décidé d'octroyer une aide supplémentaire de 240 millions d'euros à la PHM. Au total, l'État investira 479 millions d'euros pour le projet de modernisation de la PHM, soit un doublement de l'effort financier de l'État en 3 ans. C'est un financement à hauteur de 83% du montant total qui sera assumé par l'État, ce qui est un niveau exceptionnel. Sous le contrôle du directeur général de la PHM, il n'y a qu'outre-mer qu'on a ce type d'effort avec ces montants. Monsieur le ministre, vous me confirmez ? Donc tout ça pour dire que Marseille en grand, c'est une fois encore un investissement inédit qui doit passer par une série de rénovations très concrètes. Ces nouvelles aides permettront le démarrage et la première phase des travaux pour la reconstruction du SAMU avec une livraison prévue fin 2025. Et les autres opérations pourront également démarrer et concerneront les aménagements de conception en 2026, le bâtiment parents-enfants dont la livraison est prévue fin 2028, et la Timone et le site Nord en 2030. Et les élus qui sont là, je pense, se souviennent comme moi de la visite que nous avions effectuée ensemble sur ces sites, et je veux vraiment à nouveau remercier les collectivités qui s'y engagent à nos côtés. Donc vous le voyez, nous continuons d'avancer, de moderniser, d'accompagner, parce que la situation de la PHM était critique, avec en particulier un niveau d'endettement qui était très important. Et c'est aussi pour ça que nous accompagnons, je veux le dire ici avec beaucoup de force, les la réorganisation qui est faite de la PHM et qui est absolument indispensable, parce que tout ça est aussi le fruit d'une situation qui s'était enquistée, qui était un sous-investissement chronique, une mauvaise tarification qui touche, il faut bien le dire aussi, l'activité de plusieurs de ces centres, et une organisation qui devait être améliorée. Et à ce titre, la feuille de route que j'ai donnée en début d'année doit être déclinée avec plus de flexibilité sur le terrain, retrouver le sens justement au niveau du service, revoir l'organisation de temps de travail, d'avoir plus de souplesse et d'agilité. Et c'est aussi pour ça que j'ai demandé au ministre de la Santé de parachever ses efforts avec un calendrier précis. Et pour ce qui est de la PHM, d'avoir aussi la contractualisation d'un plan de soutien financier par lequel l'État apportera de nouvelles aides en accompagnant justement ces changements d'organisation. Je veux saluer aussi les efforts qui ont été faits et le déploiement de ce que j'avais annoncé au moment de Marseille en grand, puisque la PHM est aux côtés des quartiers nord et déploie, on l'évoquait hier d'ailleurs tous ensemble, mais une maison de santé directe qui est pilotée par la PHM, qui va jouer de manière croissante un rôle très important aux côtés de la médecine libérale pour déployer en quelque sorte un pivot de l'hôpital et compléter l'offre de soins dans les quartiers les plus en difficulté pour parachever le aller vers, comme on dit, des populations qui sont les plus précaires, les plus en difficulté, améliorer la prévention et l'organisation de notre offre de soins. Mais dans ce contexte-là, le rôle que vous jouez est évidemment essentiel. Votre hôpital a un rôle clé dans le cadre de nos OPEX. Beaucoup d'entre vous sont projetés, je vous en remercie, dans nos territoires d'outre-mer comme sur les territoires aussi d'opération, vous l'avez été dans zone sahélo-saharienne ces dernières années et ailleurs, et vous continuerez de le faire. Et pour accueillir nos militaires les plus gravement blessés après des prises en charge sur le terrain par vous-même ou vos confrères. Dans le cadre de la loi de programmation militaire, des scénarios qui ont été pilotés par la direction, aussi des exercices auxquels plusieurs d'entre vous ont pu contribuer, d'une guerre de haute intensité qui peut revenir, il est clair que votre hôpital jouera un rôle clé en cas de guerre de haute intensité pour pouvoir accueillir plus de militaires en opération qui seraient frappés par des blessures très graves. Et donc, dans ce contexte-là, nous voulons réenvisager le dimensionnement, et c'est le fruit du travail de toutes les équipes que je salue et de nos services de santé des armées. Nous voulons redimensionner l'hôpital. Et puis, l'hôpital s'inscrit complètement dans l'offre de soins de Marseille, avec un rôle clé en complémentarité avec la PHM, et là aussi doit faire face à un besoin croissant. C'est pourquoi nous allons construire un nouvel hôpital militaire. L'hôpital d'instruction des armées Lavran, c'est 60 ans d'activité, qui ont permis de faire tout ce que vous portez, qui ont contribué en particulier dans ces arrondissements et dans les quartiers nord à beaucoup avancer. Mais l'actuel hôpital militaire, par endroit, ne répond plus aux normes et standards de soins ou de sécurité. Il ne permet pas les évolutions nécessaires pour répondre à terme. Sa rénovation est très difficile, voire impossible à certains égards. Elle serait trop chère, elle perturberait l'offre de soins et elle n'est pas tout à fait adaptée aux projections qui ont été pensées. Et face justement à cette programmation et aux enjeux stratégiques du service de santé des armées, il faut un nouvel hôpital d'instruction des armées repensé. C'est pourquoi, dans le prolongement de mes annonces sur Marseille en grand, je suis venu ici vous annoncer ma décision de construire un nouvel hôpital militaire. Cet hôpital de nouvelle génération devra répondre aux besoins que nos armées auront pour les décennies à venir. Il sera un concentrateur et un incubateur de compétences. Il sera un véritable outil de défense en pleine autonomie pour pouvoir mieux nous engager au combat et mieux recevoir nos blessés, conjuguant sciences médicales, spécificités militaires. Cet établissement sera encore plus agile, plus modulaire, adaptable aux différentes situations sanitaires du temps de paix comme du temps de crise. Et ici à Marseille, en cohérence avec l'hôpital Sainte-Anne de Toulon, qui lui est complémentaire, et je veux saluer aussi toutes les équipes de Sainte-Anne qui font un travail remarquable, l'hôpital militaire assure et assurera le soutien santé de la communauté de défense de la première zone militaire de France. Ici, nous avons 34% des effectifs du ministère des Armées.
Voilà, c'est donc la surprise du jour, ou devrais-je dire l'annonce du jour. Emmanuel Macron, qui est en ce moment à l'hôpital militaire Laveyran et qui annonce donc la création d'un nouvel hôpital militaire. Élodie Huchard, il a annoncé juste avant cette enveloppe de 240 millions d'euros pour la PHM. Alors, on le rappelle, la PHM, c'est l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Ça comprend grosso modo quatre établissements, les plus connus étant la Timone et l'hôpital Nord, bien évidemment. C'est 3 400 lits. Alors, comme toujours, quand même, avec Emmanuel Macron, il y a beaucoup de chiffres, mais très peu de détails sur leur application, sur l'affectation des fonds, finalement.
Oui, alors en fait, c'est effectivement toujours la poursuite hein, du premier plan Marseille en grand qui avait été mis en place par le président de la République. On sait qu'il y a plusieurs blocs aujourd'hui. C'était la santé. Alors effectivement, beaucoup de chiffres, parce que vous le disiez, 240 millions. Et d'un autre côté, c'est 479 millions au total, avec à la fois les créations de lits et la modernisation. Emmanuel Macron qui rappelle quand même, et au passage, que c'est donc 83% du montant total qui sera pris en charge par l'État. C'est un peu ce qu'on entend depuis hier, le fait de dire c'est vraiment l'État qui vient au chevet de Marseille et c'est l'État qui est là pour mettre cet argent que peut-être les collectivités territoriales ne mettent pas par manque de volonté ou par autre projet. Effectivement, après, on a aussi entendu, et c'est vrai aussi dans toutes les séquences, qu'il y a beaucoup de retard qui a été pris à Marseille et que même si ces chiffres peuvent sembler énormes, et ils le sont au regard du retard pris, finalement, c'est pas tant que ça. Et puis surtout, il le dit d'ailleurs lui-même, c'est une situation qui est totalement enquistée. Donc il explique quand même presque de lui-même que certes, c'est beaucoup, mais qu'il a conscience que ça ne suffira peut-être pas.
D'une certaine manière, Christopher Reisberg, c'est une remise à niveau, comme le décrit bien Élodie Huchard. Ça vaut aussi pour les prisons, quand on nous dit on va construire des milliers de places de prison. En fait, on a déjà accumulé du retard sur l'engagement qui avait été pris pour le premier quinquennat. On ne fait que poursuivre l'œuvre qui a été entamée. Il y a beaucoup d'effets d'annonce. En fait, c'est un peu la perception qu'on en a aussi.
Oui, mais en fait, je veux dire, bon, c'est ce que j'ai écouté tout à l'heure, madame, qui disait que c'est toujours des annonces et il n'y a rien. Mais je veux dire, il y a des chiffres qui sont des chiffres concrets, qui évoquent une action politique, qui est une action sur le long terme. Il y a eu des sous-investissements ces 40 dernières années dans les services publics. Et en fait, le Covid a été un moment où on a pu réinvestir. Et on a pu réinvestir beaucoup d'argent parce que il y avait les conditions financières pour le faire. Et je suis, et ça va s'évaluer sur le long terme. Ça va pas s'évaluer en 2 ans. Quand le président y vient pour la 3e fois, il montre un volontarisme. Et ça, c'est ce qui m'a plu chez le président. C'est ce qui me plaît. J'aime le revoir comme ça. C'est-à-dire volontaire, aller sur le terrain, amener des plans nationaux. Oui, c'est une vision assez française. Hein. En Amérique du Nord, on n'a pas cette vision d'un président qui arrive et qui fait des annonces très fortes sur des plans. Mais je crois que c'est ce que les Français attendent, parce qu'il y a beaucoup d'impatience. Et on ne peut pas à la fois dire qu'on rattrape le retard et contester que ces chiffres et ces montants sont considérables, qui ont déjà été lancés pour le plan Ségur de la santé, et qui est dans l'éducation, puisqu'on est passé de l'éducation à la santé à travers un reportage. Mais je veux dire, moi, j'aime voir la vision qui était celle du début, où on dédouble les classes, où on investit par rapport à l'assignation à résidence. Et peut-être que ça se voit pas tout de suite, mais déjà, depuis quelques années, on commence à voir des résultats dans ces quartiers-là. Ce qui prouve que
peut-être qu'on a
faut
pris
pas
la
être aussi pessimiste que ce que vous dites.
Les résultats ne sont pas en faveur, justement, d'une confirmation que l'option était la bonne. Je suis désolée de vous dire ça, mais
c'est pas tellement vrai.
Dans les quartiers prioritaires de la ville, il y a eu des améliorations.
C'est pas tellement vrai, ça.
Ah, bah, je suis désolée. J'ai changé régulièrement.
Vous êtes reparti sur l'éducation.
Franchement, sur les chiffres,
on a fait un petit pas de côté. Juste un petit mot, parce que vous aviez l'air d'en savoir un petit peu sur la question, et puis on repartira. Je vous promets sur l'éducation, même si on est un peu pris par le temps, par cette allocution. Jean-Michel Fauvergue, c'est quoi ce nouvel hôpital militaire? Est-ce qu'il se substitue à un autre? Est-ce qu'il y avait des manques en la matière? On pouvait s'étonner, la question que je vous posais tout à l'heure. Il y a moins d'opérations extérieures de la part de l'armée française. On a vu le désengagement au Mali, mais bon, parmi d'autres terrains d'opération. Alors pourquoi aujourd'hui?
Alors, il y a moins d'opérations, mais l'armée est présente un peu partout, et en particulier sur le front Est, en Roumanie, en particulier, ça ne vous aura pas échappé, parce que sur le front Est de l'Europe, nous avons une guerre actuellement, une guerre entre l'Ukraine et la Russie, et que le président de la République française, son rôle, quel qu'il soit d'ailleurs, le président, c'est de prévoir et d'essayer d'anticiper tout ça. Et en fait, dans ses déplacements à Marseille, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur la police, que ce soit sur la sécurité, que ce soit maintenant sur les hôpitaux, et en particulier cet hôpital militaire qu'il annonce, il est en train de se projeter dans les choses possibles dans l'avenir, qu'on ne souhaite pas, bien évidemment.
Donc, il ne faut pas qu'on soit alarmiste, mais enfin, bon, on prévoit.
Dans des choses possibles, il faut que nos bases arrières de nos armées, en particulier pour la santé, parce que ça, c'est très important, soient présentes et soient rénovées.
Alors, on revient à nos moutons, si j'ose dire. L'éducation.
J'aimerais juste dire un petit mot quand même sur l'hôpital, parce que je pense que les solutions sont un petit peu en décalage avec les problèmes de l'hôpital
actuelle. Je pense qu'Emmanuel Macron a consenti à des efforts d'investissement qui étaient importants pendant le Covid, notamment au moment du Ségur. La revalorisation de 183 euros pour les infirmières dans le public comme dans le privé, c'était une très bonne chose à faire. Après, elles sont toujours sous-payées par rapport...
J'allais dire, ça part de très loin. Quand même,
ça part de très très loin. Elles sont toujours sous-payées par rapport à nos voisins. Et je pense que 340 millions, c'est un tout petit plan d'investissement par rapport à ce que ça nécessiterait. Et d'ailleurs, ça n'est pas qu'une question de moyens, puisque les administrations de sécurité sociale en France, elles dépensent 700 milliards. C'est le budget du Pentagone. Or, ça dysfonctionne. Donc, ça n'est pas qu'une question de moyens, c'est une question d'allocation des moyens. Il y a 35% d'administratifs dans l'hôpital public. Il faut diminuer cette part parce qu'elle est seulement de 15 ou 20% dans nos voisins, chez nos voisins, et notamment en Allemagne.
Et là, c'est donc, beaucoup de chantiers. On peut aussi parler de la fraude sociale.
C'est pas une question de chèques et de petites mesurettes comme ça. D'accord. C'est vraiment une refonte de l'hôpital.
On va dire que c'est un début. Revenons, s'il vous plaît, à l'éducation. Écoutez ce qu'a dit Emmanuel Macron concernant les heures de présence et l'accueil des élèves, notamment au collège.
Qu'est-ce qu'on va généraliser dans les quartiers politiques de la ville et à Marseille en avant-poste, qui est pour moi un point très important, en plus de ce que j'ai dit sur l'entrée des mômes dès 2 ans en maternelle et sur moins d'élèves par classe en moyenne section de maternelle. C'est qu'on va faire le collège de 8h à 18h. Et donc, dans vos quartiers, vous aurez le collège qui prendra les élèves en charge pédagogiquement de 8h à 18h. Parce que l'inégalité scolaire, elle se crée dans ces temps où l'enfant, il était renvoyé chez lui. C'est fondamental.
Alors, encore une fois, un accueil de 8h à 18h, très bien, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est réaliste ? Enfin, j'imagine comme ça que ça implique des recrutements massifs quand même.
Oui, alors, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire quand même sur des annonces comme ça. Et c'est vraiment la mécanique sémantique d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que, premièrement, en fait, il dit, par cette proposition, que les enfants sont mieux dans l'école que dans leur famille. C'est important quand même de le signaler. Hein. Ce qui est un phénomène nouveau quand même. Je veux dire, on a en France, un pays civilisé, qui a été quand même la première école mondiale, considéré que l'école elle instruisait et les parents éduquaient. Donc là, on dit, vos enfants, vous les prenez au collège de 8h de 8h à 18h. Autre élément important, le collège, c'est quand même l'endroit où on sait que tout le problème de l'enseignement se situe. On sait très bien qu'il fallait faire une réforme majeure du collège et tous les profs de lycée se plaignent quand ils voient les élèves arriver en seconde que les trois quarts de ces élèves ne connaissent pas la langue française, ne maîtrisent pas la base des mathématiques et sont incapables de les engager dans le nouveau bac. Il faut quand même être très clair là-dessus. Donc tout le monde vous le dit. Tous les profs vous disent, on récupère des élèves de seconde, ils n'ont même pas maîtrisé les fondamentaux. Et quand j'ai les fondamentaux, c'est vraiment l'ordre des opérations. Enfin, je veux dire, on est quand même dans un niveau extrêmement, extrêmement grave. Donc ça, c'est le premier sujet.
Donc c'est bien,
le
c'est
deuxième
pas bien.
Sujet, le oui. deuxième sujet, c'est qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là et qui on va mettre devant ces élèves. On en parlait à l'instant et vous avez raison. La première chose à faire à l'éducation nationale, quand même, c'est de revaloriser et de restaurer le métier d'enseignant, de le remettre à un niveau qui est à la hauteur du niveau de salaire que peuvent avoir des professeurs avec le même niveau académique, ce qui n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, on a un déclassement entre 20 et 30%.
16 à 18h, il faut faire de l'enseignement académique stricto sensu.
Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qui on va mettre devant ses élèves, sachant qu'on n'est déjà pas capable de mettre un prof devant un prof formé, compétent, c'est-à-dire capable d'instruire, maîtrisant ses savoirs académiques, devant tous les élèves déjà actuellement. Après, sur le fond... Nous, en tout cas, chez SOS Éducation, c'est une mesure qu'on avait proposée. Et on avait proposé cette mesure en primaire, en proposant d'accueillir les enfants des milieux les plus éloignés de l'école tôt le matin avec un petit déjeuner, des activités de mise en mouvement éducatif, ensuite le temps scolaire et dans l'après-midi à partir de 16h, des activités artistiques, scientifiques ou sportives. Donc nous, on avait imaginé un dispositif de cette nature-là plutôt en primaire.
Et ça se fait déjà, ça, avec le périscolaire. Enfin, moi, je l'expérimente, par exemple. Donc,
je ne sais pas dans quel établissement vous avez vos enfants, mais
ils
de
sont
ce côté-là, il n'y a pas... Ok, mais ce n'est pas du tout égalitaire.
D'accord.
Sur le territoire.
Okay. Alors, écoutez, vous aviez des informations sur ce qui est prévu au programme en quelques secondes, si vous pouvez me le faire.
Non, mais effectivement, le problème, et vous le soulignez, c'est... comment ils vont recruter ces enseignants, qu'est-ce qu'on va proposer. Et c'est l'État finalement qui se dit, on va pallier les parents défaillants, on estime que les parents ne peuvent pas s'en occuper, l'État prend le relais, mais en fait jusqu'où? Parce que c'est compliqué.
Oui, c'est la dichotomie entre effectivement éducation et instruction. C'est tout le temps qui nous restait pour ce bloc-là, mais certains d'entre vous, bien sûr, vont rester jouer les prolongations avec nous. On parlera aussi de sécurité, et puis le hijab dans le foot. Le Conseil d'État semble déjà pencher dans le sens orienté par son rapporteur. À tout à l'heure.
Yeah.
serons de retour pour la suite du débat. Un débat un peu dissipé aujourd'hui, je dois le dire, juste après le JT de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. Deuxième jour de visite pour Emmanuel Macron à Marseille. Depuis hier, le président de la République présente l'acte 2 de son plan Marseille en grand. Et après s'être rendu ce matin sur le chantier d'une école, il poursuit à présent son déplacement dans un hôpital militaire du 13e arrondissement. Bonjour Yoann Uzaï, vous suivez le président de la République avec Olivier Gangloff, le président qui a annoncé notamment la construction d'une nouvelle structure dans les quartiers nord de la ville.
Oui, le président de la République qui vient tout juste de terminer son discours ici à l'hôpital d'instruction des armées de l'Aveyron. Le président de la République qui annonce effectivement la construction d'un nouvel hôpital militaire beaucoup plus moderne. Il est vrai que celui-ci est un peu vétuste. Il n'est plus en capacité, a dit le président de la République, à répondre aux besoins stratégiques de la France et de ses alliés. Le nouvel hôpital militaire sera capable de répondre à des risques chimiques, à des risques bactériologiques et à se déployer sur le terrain pour venir en aide à nos soldats lors des opérations extérieures, mais aussi aux soldats alliés. Le président de la République qui a insisté sur un point, la construction de ce nouvel hôpital militaire s'inscrit dans la préparation de la France à une éventuelle future guerre de haute intensité. Et on voit à nouveau que la guerre en Ukraine déclenchée il y a un an et demi a évidemment bouleversé les choix stratégiques de la France à plusieurs niveaux, au niveau des armées bien sûr et au niveau médical. Illustration donc ici à Marseille, le président de la République qui a visité la structure actuelle où nous nous trouvons en ce moment, où sont soignés évidemment des militaires mais aussi des Marseillais et parmi eux plusieurs victimes de règlements de compte liés au trafic de stupéfiants. 7 victimes ont été soignées depuis le début de l'année ici et Emmanuel Macron a rencontré les personnels soignants qui sont chargés de s'en occuper au quotidien.
Merci beaucoup Johan. Dans l'actualité également, un homme a été accusé et incarcéré après avoir violé 2 de ses voisines, une femme de 96 ans et une mineure. Mais aujourd'hui, la mère de la mineure est menacée par la famille de l'agresseur. La mairie de Clichy tente actuellement de les expulser. Les explications de Vincent Fahandège.
C'est ici, dans la prison de Fresnes, qu'un jeune homme de 20 ans aurait, à plusieurs reprises, agressé sexuellement son co-détenu. Des faits commis alors qu'il était placé en détention provisoire pour le viol d'une femme de 96 ans. Les faits se sont déroulés en février dernier dans cet immeuble à Clichy où la nonagénaire et l'agresseur habitaient. Mais ce n'est pas la première fois que le jeune homme passe à l'acte. Toujours dans cette résidence, en 2020, il aurait violé à plusieurs reprises une adolescente, sa voisine, avec qui il entretenait une relation. Il y a quelques mois, nous avons rencontré la mère de la victime.
Ma fille, elle a été victime de violences, de viols, d'actes de barbarie de la part de cet homme-là.
Et c'est désormais cette mère de famille qui est menacée par la famille de l'agresseur. Français d'origine marocaine, ils occupent un logement social. La mairie de Clichy cherche à les expulser.
On est quand même face à une affaire où il y a un viol, une tentative de viol sur un nonagénaire. Il y a vraisemblablement un lien qui est fait avec un viol sur mineur protégé. Et maintenant, on est face à une tentative de viol sur un codétenu. Et faire bouger la famille d'une victime, c'est, je trouve, très particulier, alors que ceux qui vont faire bouger, c'est la famille des personnes qui posent problème.
Une procédure néanmoins extrêmement longue et sinueuse qui pourrait prendre plusieurs mois.
L'actualité internationale, Vladimir Poutine s'est une nouvelle fois exprimé. Le chef du Kremlin est revenu sur la tentative de rébellion de la milice Wagner le week-end dernier. Il s'est voulu rassurant et a remercié ses soldats pour leur patriotisme. Retour sur cette prise de parole avec Maxime Lavandier.
C'est au Kremlin, devant les forces de sécurité et tapis rouge déroulés, que Vladimir Poutine a pris la parole. Le leader russe a commencé par remercier ses soldats qui ont, selon ses termes, empêché une guerre civile face aux rebelles de la milice Wagner.
Vous avez défendu l'ordre constitutionnel, la vie, la sécurité et la liberté de nos concitoyens. Sauvez notre patrie de turbulences. Dans les faits, vous avez empêché une guerre civile.
Un combat héroïque de ses troupes, même s'il a admis des pertes dans ses rangs. Des soldats auxquels le président a voulu rendre un dernier hommage. En louant les actions de ses forces armées, Vladimir Poutine souhaite également rassurer sa population et balayer les doutes d'un pays affaibli.
Votre résolution et votre courage, ainsi que la consolidation de la société russe, ont joué un rôle déterminant dans la stabilisation de la situation. Les gens qui ont été entraînés dans cette révolte ont vu que l'armée et le peuple sont unis.
Clore la crise née de la mutinerie Wagner, c'est le sens voulu de ce discours, alors que le sort réservé à Evgeny Prigojine et ses hommes reste encore flou.
Et ne manquez pas tout à l'heure justement notre soirée spéciale Ukraine dès 21h sur CNews. Première partie, les soldats de l'information. Deuxième partie, dès 22h15 sur le tournant de la guerre, débat animé par Julien Pasquet. Et puis dès 23h, un documentaire sur les femmes dans la guerre. On termine avec notre chronique sport et du football. La prochaine Coupe du Monde des clubs se tiendra du 12 au 23 décembre. Ce sera à Jeddah, en Arabie Saoudite.
Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
Jeddah s'offre plus que des stars. Après Benzema, Kanté, la deuxième plus grande ville d'Arabie Saoudite va accueillir la Coupe du Monde des clubs à la fin de l'année. La FIFA l'a annoncé hier à la suite d'une visite des infrastructures. Le pays avait été désigné en février pour accueillir le tournoi. Benzema, recruté par Al-Ittihad il y a 3 semaines, défendra donc à domicile le trophée qu'il a remporté avec le Real Madrid au printemps. Cette édition 2023 sera la dernière dans le format actuel. Une nouvelle compétition à 32 clubs au lieu de 7 sera lancée aux États-Unis en 2025.
Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
Et voilà Nelly, c'est la fin de ce journal. L'après-midi continue bien sûr sur CNews avec vous et vos invités pour la suite de 90 minutes info.
Merci beaucoup cher Mickaël, tandis que Mathieu Vallée et Karim Zeribi nous ont rejoints sur ce plateau. Bonjour à tous les deux et bienvenue. On va parler du paiement des amendes forfaitaires pour la consommation de drogue. Un paiement qui doit pouvoir, ce ne sont pas mes mots mais ceux d'Emmanuel Macron, être immédiat, par carte bancaire ou en liquide. Évidemment, depuis cette annonce qui avait déjà été faite dans la presse locale, les policiers restent assez dubitatifs. Trop de difficultés pratiques, selon nos forces de l'ordre. Regardez cette mise en application, ou en tout cas ces témoignages recueillis dans la région nantaise par nos équipes. Jean-Michel Decazes, Mickaël Chailloux.
Le deal se déroule en plein jour, il est 10h30, la marchandise est cachée sous le panneau d'information. Ni le vendeur ni l'acheteur ne craignent quoi que ce soit dans ce quartier de Bellevue à Nantes. Lorsque nous abordons l'un des acheteurs, il nous rit au nez.
Tu veux savoir vite fait ? Moi, il y a une amende, je paye pas mon sang. Voilà ce que j'en pense.
En plein centre-ville, 14h30, là aussi, on se cache à peine pour la transaction. Le point de deal se situe à quelques mètres de la vitrine d'une commerçante qui souhaite conserver l'anonymat. L'amende payée sur place, elle n'y croit pas un instant.
C'est pas forcément les plus riches qui consomment. Ils économisent de quoi s'acheter un 20 ou 40 balles et ils n'ont pas forcément l'argent sur eux pour payer. Hein. Ils ne voudront pas payer de toute façon.
150 euros en amende minorée. Donc il va falloir accompagner les gens à un distributeur pour qu'ils retirent cet argent. Complexité, à mon avis. Je ne suis pas sûr que nos collègues soient prêts à transporter de l'argent dans les véhicules de police.
Je vais vous dire franchement, effectivement, c'est plus le vendeur qu'on va aller interpeller que l'acheteur. C'est un petit côté percepteur et c'est vraiment pas du tout notre job.
Aujourd'hui, seuls 35% des amendes forfaitaires sont payées.
Mathieu Vallée, je commence avec vous. Je rappelle que vous êtes porte-parole de SICP Police. Pour vous, ce reportage, il est éclairant, il met en exergue tout ce qui ne va pas. On a entendu plutôt des voix qui allaient dans le sens d'un non assez ferme, plutôt que ceux qui disent bah, pourquoi pas essayons jusqu'ici.
Alors on parle de l'amende forfaitaire qui est payable tout de suite, c'est ça?
Oui.
D'accord. Non, mais
après, on parlera des points de deal, bien sûr.
Pas de souci, oui. Non, mais les policiers, ce n'est pas des caissiers ambulants. En fait, on ne peut pas leur demander et d'interpeller les guetteurs, et d'interpeller les consommateurs, et d'interpeller les dealers, et en même temps faire la sanction pénale, l'encaissement et le suivi en fait, des paiements de ces amendes. Il y a le fisc aujourd'hui qui est très bien calibré en termes juridiques pour le faire, notamment en termes de saisie sur salaire, en termes de saisie de biens, notamment par voie d'huissier, pour pouvoir mettre à exécution ces sommes qui sont dues, et ils le font très bien. Il serait utile de renforcer ces effectifs des impôts et du fisc pour pouvoir justement exécuter le paiement de ces amendes, comme c'est fait d'ailleurs sur toutes les amendes qui sont émises par l'État, par les policiers ou les gendarmes ou les douaniers. Mmh. Maintenant, les douaniers, ils ont dans leur code des facilités que les policiers n'ont pas, par exemple de pouvoir saisir les biens qui pourraient alimenter le paiement des sommes qui seraient dues par les matières saisies. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le policier, on lui demande de tout faire, de tout assumer, de tout régler à la place d'institution. l'institution et on peut pas encore une fois lui alourdir la charge de travail. Et ça, c'est des retours des policiers de terrain qu'on a. Hein. C'est pas une vue de l'esprit, des salons ou de l'entre-soi.
Depuis hier, quand même, l'exécutif nous cite en exemple ce qui se pratique ailleurs et a priori dans d'autres pays, y compris européens, ça marche pas mal. Donc ils vont vous dire bon bah si les autres policiers ailleurs, chez nos voisins espagnols, bon les Suisses sont pas dans l'Union européenne, mais enfin bon ils sont quand même, on est limitrophes. Si ça marche ailleurs, pourquoi pas l'appliquer à nos forces de l'ordre?
Oui, mais vous savez, moi j'ai des exemples de choses qui marchent ailleurs et qu'on fait pas en Europe. Vous avez par exemple beaucoup de policiers qui interpellent aujourd'hui des guetteurs ou des dealers qui sont des mineurs étrangers isolés. Alors souvent, ils sont ni mineurs ni isolés. Et en réalité, les policiers à chaque fois doivent faire une demande d'entraide de judiciaire européenne ou internationale pour vérifier la minorité ou pas ou la majorité des personnes interpellées. L'Europe, elle pourrait par exemple mettre en place un fichier commun au lieu qu'on fasse des procédures fastidieuses et qui prennent du temps, où tous les MNA ou en tout cas les individus de nationalité étrangère qui commettent des infractions puissent être fichés au niveau européen en lien aussi avec les pays comme la Tunisie, l'Algérie, le Maroc ou même les pays de l'Afrique subsaharienne. Ça, c'est un exemple qui pourrait marcher. Maintenant, les trafics de stupéfiants en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne ou en Allemagne, c'est pas les mêmes qu'en France. Vous savez, aux Pays-Bas ou en Italie, par exemple, on a des véritables mafias qui mettent des contrats sur des magistrats, sur des membres de l'exécutif, sur les membres de familles royales lorsqu'il y a des familles royales à la tête de ces pays. Et justement, en France, on veut pas en arriver là. Donc moi, je veux bien que l'herbe soit plus verte ailleurs, mais en réalité, moi, je suis désolé, vous allez dans les quartiers nord de Marseille, vous allez à Bellevue à Nantes, vous allez à l'île sud dans Lille, vous allez à Lyon, à la Guillotière ou même à Vénissieux ou encore à Vaux-en-Velin. Toutes ces villes qui sont gangrénées par le trafic de stupéfiants, c'est déjà très difficile de faire en flagrant délit des consommateurs, des dealers et des guetteurs, sachant que les guetteurs aujourd'hui ne risquent rien puisque majoritairement ils sont mineurs et que l'infraction elle est difficilement tenable même lorsqu'on établit un trafic de stupéfiants. Donc il faut être pragmatique. Je suis désolé, c'est pas encaisser des amendes qui va résoudre la solution, c'est l'arrestation de ces consommateurs. Et d'ailleurs, je termine sur ça. Ouais. Aujourd'hui, j'ai bien conscience que ces amendes forfaitaires délictuelles, elles visaient à désengorger les tribunaux et à simplifier des procédures qui étaient suivies d'aucun effet. Mais il y a deux soucis. Le premier, c'est qu'il n'y a aucun suivi sanitaire et de santé publique sur ces consommateurs tel que le prévoit le Code de la santé publique. Et ensuite, vous avez malheureusement une dépénalisation et une banalisation de l'usage de la drogue qui est entraînée par ces amendes forfaitaires comme les conduites sans permis, comme les conduites en défaut de parfum. En fait, c'est la politique du pauvre et de la clochardisation. La justice ne peut pas assumer les procédures, oui. Donc on verbalise. Dans le concret, ça peut arranger les choses, mais malheureusement, dans notre société, au niveau de la morale, c'est compliqué.
C'est la fausse bonne idée. Le mot qui est beaucoup revenu hier dans la voix de nos intervenants, c'était le mot de « gadget ». En gros, on sort à chaque fois une sorte de gadget du chapeau, mais qui ne va pas régler les choses.
Moi, je
pense vous seriez partant, vous ?
Non, je ne suis pas partant parce que je pense qu'on complexifie le travail des policiers qui est déjà compliqué. Moi, j'aimerais qu'on leur facilite la vie, pas le contraire. Et je ne les vois pas avec un terminal à la main ou avec, je dirais, de l'argent liquide, avec des sommes importantes. Demain, on va être confronté à des situations qui vont être rocambolesques. La personne ne veut pas payer, qu'est-ce que vous faites? Vous le palpez, vous lui prenez son argent, mais il va crier au vol. Il va dire la police me détrousse. Ça n'a aucun sens. On va les mettre en difficulté. Moi, je préfère qu'on mette en place un délit de guetteur. Moi, je préfère qu'on s'attaque à la main-d'œuvre des trafics de drogue. Quand je vois à Marseille qu'ils sont assis sur des fauteuils, sur des banquettes, à l'entrée des cités, tels des checkpoints qui vérifient les entrées et les sorties du quartier. Monsieur, vous allez où? Non, vous rentrez pas. Madame, vous allez où? Vous êtes du quartier? Ok, vous rentrez. On marche sur la tête. On laisse ça et on veut l'attaquer avec une amende d'un consommateur qui ne paiera pas et en mettant des problématiques aux fonctionnaires de police dans la perception de 735 euros. Mais attaquons nos vrais problèmes. Le délit de guetteur, c'est la main d'œuvre des groupes donc criminels aujourd'hui dans ces cités.
Michael Sadoun, on prend le problème à l'envers, en gros, c'est comme nous dit Karim. Non plus de laisser le consommateur tout à fait tranquille, hein, chacun en convient.
Mais... Non, mais bon, il y a quand même des priorités quand on a des moyens limités. Moi, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt ce que disait Mathieu Vallée et je suis d'accord avec lui sur toute la ligne. Avec ce qu'a dit Karim Zeribi, il y a une disproportion, je trouve, totale entre l'ampleur du phénomène et la variété des moyens par lesquels il se met en œuvre et ce micro-dispositif qui n'est même pas une obligation mais qui est simplement une possibilité de payer sur place, avec toutes les difficultés d'exécution que cela comporte, on en a déjà parlé.
Sur l'argent liquide notamment, il y a beaucoup de débats. On a dit qu'on n'est pas des convoyeurs de fonds.
Peut-être des courtes peines de prison pour ceux qui prennent part à ces trafics de drogue et qui sont souvent jeunes. Donc ça, ce serait peut-être plus dissuasif.
Il n'y a pas de prison.
Ah oui,
il a passé.
Je pense qu'il faudrait en mettre en place, comme ça se fait dans les pays du Nord, des courtes peines pour changer le rapport bénéfice-risque, puisqu'on sait que ces jeunes qui participent à des trafics, c'est 100 à 200 euros par jour pour être chouf. Un réseau économique normal ne peut pas se mettre en place quand des gens gagnent autant dans ce genre de trafic. Il y a aussi la question... C'est Manuel Bompard qui l'a cité, donc je vais vous dire, c'est pas ma coterie politique, ouais, mais du contrôle des containers, puisque la drogue qui arrive en France, elle arrive quand même par quelque part.
C'est fait déjà.
Donc oui, mais peut-être mettre des moyens intensifiés dans ça, plutôt que de faire concentrer les policiers sur faire retirer de l'argent aux consommateurs de drogue. Concentrons-nous sur les problèmes prioritaires. Voilà.
Alors, vous avez dit beaucoup de choses, mais on va essayer de les délaguer un petit peu et de détailler. Christopher Weisberg, bon, on voit bien que ça fait vraiment pas du tout consensus cette affaire. J'aimerais commencer par le délit de guetteur. Ça, c'est assez intéressant comme notion. Pourquoi pas, après tout ? Parce que voir un gamin de 12-13 ans en toute impunité s'installer et prendre la place et occuper l'espace, c'est vrai que c'est un
contrôler les entrées et sorties
ça
des quartiers.
Ça a l'air très convaincant.
Non, mais c'est un peu fort de café.
Moi, je vais vous dire.
Il n'a pas besoin d'être en flagrance
J'ai l'expérience de ma circonscription. Et au Canada, il n'y a pas eu simplement de la légalisation, il y a moi ce que j'appelle la réglementation du cannabis. Et on peut y trouver des défauts, mais il y a un truc qu'on ne voit pas au Canada, c'est ces scènes-là. C'est-à-dire que parce qu'on a décidé de s'attaquer non pas à la partie délit, mais à aller en amont et en faire une réglementation publique de façon très respectueuse, et c'est beaucoup mieux qu'aux États-Unis, parce que pour le coup, au Canada, c'est extrêmement réglementé. Il y a toujours une question de santé publique, qui d'ailleurs à laquelle on s'adresse beaucoup mieux en contrôlant les produits. Et par ailleurs, il n'y a pas ces scènes dans les rues qui sont quand même, c'est vrai, assez choquantes. Alors après, moi, sur le sujet dont vous venez d'évoquer, moi, je pense qu'il y a d'autres pays qui font mieux que nous, et c'est quand même intéressant de s'en inspirer, parce qu'aujourd'hui, la situation ne convient absolument pas.
Jean-Michel Fauvergue, les containers, le port du Havre, il y a eu des grosses saisies, il y a eu des grosses prises, mais effectivement, à chaque fois, on dit pour un container qui est contrôlé, il y en a 40 autres qui ne le sont pas, et du coup, ça passe entre les mailles du filet. Est-ce qu'on peut raisonnablement mettre des moyens là-dessus, quoi ?
Oui, parce qu'il faut se méfier aussi de ce qu'on appelle tous les problèmes prioritaires. Chacun a son problème prioritaire. Et voit sa manière de lutter contre les stupes. En réalité, la manière de lutter contre les stupes, c'est tout ce qui a été dit là, plus les amendes pénales forfaitaires. Il y a tout, il faut mettre tout en place en même temps. C'est pas pour rien qu'à un certain moment, la France est le premier pays consommateur de stupes. On n'y arrive pas. On est complètement à la rue en termes de lutte contre les stupes. Et c'est pas le boulot des flics qui est un boulot très important. C'est pas les saisies que font les flics qui vont nous dire qu'on travaille mieux sur la lutte contre les stupes. L'amende pénale forfaitaire telle que vous l'avez, je l'ai votée moi. Je l'ai votée c'était en 2018. Je l'ai votée. Elle était prévue pour tout type de stupes, quelle que soit la personnalité qu'on a en face de nous, un récidiviste ou pas un récidiviste, quel que soit le nombre de grammes ou de kilos qu'on a en face de nous, enfin plutôt des grammes, dans ce domaine-là. Mais ça a été limité par les parquets. C'est-à-dire que les parquets ont limité le travail du législateur. Ça, c'est quelque chose qui est important et sur lequel on devrait revenir. La deuxième chose, quand on a mis en place cette amende-là, auparavant, comme on fait de toutes les lois, on a des auditions. Et c'est les policiers et les gendarmes qui nous l'ont demandé. Et les policiers et gendarmes, et certains nous ont demandé s'ils ne pouvaient pas justement faire cette perception sur la voie publique. Donc, effectivement, ça marche dans d'autres pays. Pourquoi ne pas l'essayer chez nous, en plus de tout ce qui a été dit ?
Les policiers, pas tous les policiers, visiblement. Regardez, il y a autant d'avis dans la nature.
Mais oui, mais bien sûr. Mais...
Regardez, on va vous montrer deux avis, celle de la porte-parole de la police nationale et la déléguée nationale d'unité SGP Police, Linda Kebab.
C'est pour avoir une mesure supplémentaire d'efficacité sur le terrain. Mmh. On voit ça comme ça, parce que déjà, ça simplifie en plus leur action, dans la mesure où ça leur évite d'interpeller la personne, de la faire venir au commissariat, d'appeler le magistrat et toutes les suites qui doivent être consignées sur procès-verbal. Donc.
Et je trouve ça tellement dommageable de demander aux policiers, finalement, qui sont déjà surchargés, qui ont énormément de matériel sur eux, de protection, de constatation, les tablettes, l'armement intermédiaire, eh bien on va leur demander de devenir des agents du fisc. Donc moi, j'ai une chose toute simple, c'est-à-dire que nos collègues policiers aujourd'hui, qui sont des policiers, voilà, des agents et des officiers de police judiciaire, on va leur demander en fait de devenir des agents du fisc. Parce que c'est tout simple. La responsabilité aujourd'hui, qui est celle du Trésor public, de recouvrir ces amendes, elle va incomber aux policiers. Alors, je propose aussi qu'on ajoute dans la dotation matérielle des policiers le sac banane, vous savez, pour pouvoir rendre la monnaie. Et puis les petits rouleaux pour les facturettes qu'on va mettre dans les TPE. Enfin, ça n'a pas de sens, Madame Ferrari.
Et puis on Karim, s'attaque aux mineurs.
Alors le débat, il se poursuit aussi en plateau. Karim voulait réagir peut-être à ce que disait Jean-Michel, notamment oui, sur Jean-Michel... le fait que ça a été bien accepté par certains flics.
Non mais Jean-Michel a dit quelque chose d'important. Il a dit « Tout ce qui a été dit sur ce plateau est intéressant ». Y compris l'amende forfaitaire. Le problème, c'est qu'on ne met pas en place tout ce qui a été dit sur le plateau. On met en place que l'amende forfaitaire. Parce que si on mettait en place le délit de guetteur, plus les propositions que Mathieu Vallée a indiquées, plus l'indemnité forfaitaire, on aurait un arsenal. Or, aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens de cet arsenal. C'est ça, la réalité. Parce que, moi, je vais vous dire, si vous voulez que ça marche...
Ça existe déjà.
Si vous voulez que ça marche...
Ça s'appelle
tu prends l'exemple des pays étrangers. Il faut quand même qu'on entende aussi qu'il faut faire preuve de coercition parfois.
Ah, bien sûr.
Aujourd'hui, nous n'avons pas de place en prison. Quand tu prends l'exemple des Pays-Bas, quand tu mets en place une réglementation, si la personne ne respecte pas la réglementation, elle va passer 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois en prison. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. On a 72 000 détenus pour 60 000 places. On n'a même pas un centre d'éducation renforcé par département pour les adolescents.
Alors,
on ne se donne pas les moyens de la coercition.
Et c'est donc, quoi mais, s'il n'y a pas de place de prison, mais, tu
il n'y a pas de contrepartie. Donc, on ne peut pas se donner les moyens d'une politique, j'allais dire autoritaire, donc pas autoritariste, autoritaire au sens noble du terme. Mathieu. On ne se donne pas les moyens. C'est ça, la réalité.
Mathieu Vallée, ça, mais, en admettant qu'on s'en donne les moyens, ça prendra encore quelques années.
Non, mais c'est dommage que le déplacement du président de la République s'est concentré sur le fait que les policiers allaient devenir des caissiers ambulants. On a un outil que les pays dans l'Europe nous envient au monde entier, c'est la police judiciaire. On n'en a pas beaucoup parlé. Il les a rencontrés lundi midi à l'évêché. On a la brigade de recherche et d'intervention, la brigade de répression du banditisme et la brigade criminelle qui, je le rappelle, contrairement aux annonces du président de la République, ils n'auront pas plus en septembre. Ils auront encore en moins parce qu'il y a 14 policiers qui partent en mutation en septembre.
C'est ce qu'il nous a dit hier, qu'il y aurait les agents de PJ en
plus. Oui, mais non, mais ils viennent pas en plus. C'est que par les jeux des mutations, il manquait déjà une dizaine de policiers dans les groupes de la crime et de la BRB.
Donc il y a un tour de passe-passe.
Bah exactement, mais après c'est le jeu des mutations, mais en fait ça sera pas en plus. Et quand on voit qu'on a 23 décès liés au règlement de compte, moi je vous donne juste un exemple. La brigade de répression du banditisme, la brigade criminelle et la brigade de recherche d'intervention de la police judiciaire de Marseille, ils ont fait des affaires extraordinaires sur ces règlements de compte. S'ils intervenaient pas, mais Marseille ça serait Beyrouth. En fait, vous avez ces policiers qui, en flagrant délit, ont interpellé une bande qui avait voulu assassiner une personne à proximité d'une école en plein jour. Donc, je vous laisse imaginer les victimes collatérales qu'on aurait pu avoir. Et aujourd'hui, on assiste à une ubérisation des assassinats sur la capitale phocéenne. Vous avez des recruteurs qui officient sur les réseaux sociaux, qui pour 15 000 euros, 20 000 euros mettent des têtes à prix que des jeunes, notamment.
On l'a vu avec ce jeune de 18 ans, là, qui avait plusieurs contrats.
Notre, qui s'appelait Mathéo et qui a été interpellé à Gardanne il y a un mois et demi, effectivement, et qui fait l'objet d'une instruction et qui est en détention provisoire. Et ben, effectivement. Et ensuite, ils mettent leur forfait sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et c'est ça, aujourd'hui, qui doit nous inquiéter. Et c'est ça dont j'aurais aimé que le président parle. C'est que cette police judiciaire, aujourd'hui, ça sera le fer de lance et ça l'est déjà contre la criminalité organisée. Le pilote des points de deal par les policiers de Marseille, par les CRS, c'est efficace, mais on a atteint la limite. Il faut nettoyer les hauts immeubles, mais il faut aussi nettoyer les réseaux. Si on ne fait pas ces deux jambes, on n'éradiquera pas, en tout cas pas mieux, les trafics de stupéfiants que l'on serait pu constater jusqu'à aujourd'hui. Et cette police judiciaire, avec la réforme de la police nationale, moi je le redis sur votre plateau, on émet des vives inquiétudes sur cette réforme, parce que cette police judiciaire, elle est enviée dans le monde entier. C'est des enquêteurs d'excellence, sans faire offense à nos enquêteurs de sécurité publique qui croussent sous les dossiers. On a ces enquêteurs spécialisés qui ont le temps, entre 1 mois et 6 mois, qui élucident des enquêtes, qui ont les moyens et qu'il faut absolument renforcer, sinon on pédalera dans la semoule.
Là, vous parlez de la réforme qui a été annoncée il y a 3 mois et qui a été très, très
décriée. Enfin, une réforme, c'est fait pour améliorer les choses, mais enfin là, ça fonctionne, donc je ne comprends pas. C'est la sécurité publique qui est malade. Ce n'est pas en mettant un parent sain dans un parent malade qu'on arrange les choses. Ce qu'il faudrait, c'est simplifier la procédure des enquêteurs de sécurité publique, leur donner moins de dossiers, mais ça nécessite du courage politique.
Vous comprenez un peu ces doléances quand même. C'est-à-dire que. On annonce un peu des mesures en guise de saupoudrage, mais que ça ne va pas assez loin dans le discours et dans l'intention.
Non mais attendez, déjà, bon, moi, premièrement, je ne suis pas un spécialiste de la police et je suis face à 3 experts de la police, donc je vais certainement pas commencer à donner des leçons sur ce qu'il faudrait faire. On parle d'un déplacement à Marseille qui, en fait, est censé justement montrer à la population qu'il y a une action sur le long terme pour essayer de régler des problèmes. Et très clairement, il y a plein de solutions qui ont été adressées. Vous passez par la. On a 20 minutes de débat sur le forfait. Heureusement que la politique de la France en matière de sécurité, c'est pas juste la forfaitisation. Non,
on peut aussi parler de homicides. Il y en a 23 depuis le début de l'année. La première annonce à laquelle procède Emmanuel Macron, c'est l'amende forfaitaire. Est-ce que ça fait pas un peu démesuré, quoi, on va dire?
Écoutez, encore une fois, moi je suis de loin, je suis en plateau, je ne sais pas exactement ce qu'il a dit sur toutes les séquences, et je me garderai bien de dire que d'accord. Ça. Mais en tout cas, sur cet enjeu de la forfaitisation, on en a parlé, ça n'est pas une politique en soi. Tout le monde est d'accord.
Je vais très vite. Vous qui êtes député des Français d'étrangers, est-ce que vous serez favorable à ce qu'on ait un fichier international avec notamment les accords de prunes? Vous savez, c'est ces accords qui permettent d'échanger notamment les empreintes et les identités entre les pays européens, des délinquants qui font fi des frontières européennes. Vous savez qu'aujourd'hui on a l'espace Schengen, mais malheureusement on n'a pas les outils qui vont avec pour les contrôler. Est-ce que vous serez favorable pour qu'on détermine ces mineurs non accompagnés, ces mineurs étrangers isolés qui souvent sont des majeurs et en tout cas ils sont rien d'isolés, qu'on puisse avoir un outil efficace européen en lien avec les pays dont sont originaires ces délinquants pour qu'on puisse rapidement déterminer la minorité ou la majorité de ces
délinquants? Je suis assez d'accord. On a eu le débat en commission des lois sur la LOPMI sur ce sujet-là pour justement mieux financer ces tests. Alors après, tout ce qui est international, ça passe par traité. Hein. Donc moi,
la France peut faire de lance.
Mais la France peut poser le sujet. Mais le sujet du test sur les mineurs, c'est un sujet qu'on a abordé sans tabou.
Avec un fichier, sans besoin de test, on irait plus rapide.
Encore une fois, on a déjà abordé ce sujet.
Je voudrais revenir sur l'approche plus globale de la sécurité à Marseille. Monsieur le député, vous avez raison, ça ne doit pas se limiter à l'amende forfaitaire. Moi, j'habite le quartier nord de Marseille, monsieur le député. Hier, le président de la République était dans le 14e arrondissement à la Busserine, qui était un quartier très difficile, où il y a eu de nombreux règlements de compte. Il y a eu 2 heures de débat avec les habitants. Pendant une heure, les habitants qui ont pris la parole ont parlé de sécurité, disant qu'ils se sentaient abandonnés. Le mot est revenu plusieurs fois. Abandonné. Donc, effectivement, l'amende forfaitaire, on en débat. Excusez-moi, mais c'est accessoire. Ce que veulent les habitants, c'est de la présence policière. Les habitants des quartiers, contrairement à ce qu'on veut, on dit, ils veulent voir la police. Ils se sentent abandonnés. Ils veulent du bleu. Alors moi, je suis pour qu'on renforce la police judiciaire. Je suis aussi pour qu'on ait une police présente, 7 jours sur 7, jour et nuit, dans ces quartiers. Et s'il faut recruter 30 000 fonctionnaires de police dans notre pays, il faut qu'on sache où vont nos impôts et il faut les recruter.
Mais justement, restez avec nous. Tout à l'heure, on parlera de la Castellane, la peur des habitants de la Castellane. Et vous serez là, bien sûr, Karim. Merci Mathieu Vallée d'être passé chez nous. On vous retrouve un petit peu plus tard dans Punchline. Ouais. Merci à tous. Merci, vous laissez filer, changer de plateau. Et excellente fin d'après-midi. Dans un instant, on parlera aussi du hijab dans le foot avec, vous savez, ce collectif de hijabeuses qui souhaitent pouvoir le porter. Et le Conseil d'État a été saisi. Le rapporteur, hier, a émis un avis favorable qui laisse présager, a priori, que les magistrats suivront les recommandations de leur rapporteur. À tout à l'heure. De retour pour la dernière demi-heure de 90 minutes info. Et avant de reprendre le débat où on l'a laissé, ou presque, je vous propose de retrouver Somaïa Labidi pour le rappel des principaux titres du jour.
Vladimir Poutine a rendu hommage à son armée à la mi-journée, une armée qui a selon lui empêché une guerre civile pendant la rébellion du groupe paramilitaire Wagner. Le président russe assure que ni l'armée ni la population n'ont soutenu la milice. Le chef du Kremlin ajoute que le groupe Wagner a touché près d'1 milliard d'euros de la part de la Russie sur l'année écoulée. Explosion rue Saint-Jacques, un corps retrouvé dans les décombres. Les recherches avaient dû être temporairement interrompues ce week-end, le temps de renforcer la solidité d'un immeuble mitoyen. Une femme était portée disparue depuis le drame survenu mercredi dernier à Paris, mais compte tenu de l'état dégradé du corps retrouvé, il n'est pas possible de l'identifier pour le moment. Et puis, démantèlement d'un gang spécialisé dans le jeu de bonneteau au pied de la Tour Eiffel. La police judiciaire a interpellé 22 membres d'un groupe criminel roumain qui arnaquait les touristes et dont l'activité rapportait plus d'1 million d'euros par an. Les suspects ont été placés en garde à vue. Le chef du réseau basé en Roumanie a échappé aux arrestations, mais sa compagne, considérée comme sa lieutenante, fait partie des interpellés.
Merci beaucoup. Donc, place au débat. Hier, vous étiez peut-être devant votre téléviseur. On en a parlé à l'antenne de l'avis émis par le rapporteur public du Conseil d'État. Un avis favorable pour le port du hijab dans le foot amateur. Les juges devront donc trancher et donner l'avis définitif sous 15 jours, 3 semaines, a priori. Regardez ce reportage de Mathilde Couvillier-Flornois avec Léo Marcheguet et on en parle ensemble.
Le hijab a-t-il sa place sur les terrains de football? Pour Mathieu Boccoté, la réponse est non. Ce sont les islamistes eux-mêmes qui nous disent si vous ne respectez pas le hijab dans le sport, vous ne respectez pas les musulmans. Alors que les musulmans, une bonne partie d'entre eux, ne revendiquent d'aucune manière le port du hijab, le port de signes religieux dans le sport. Il faudrait refuser cet effet d'amalgame. Hein. Le véritable pas d'amalgame, il est là. Ce n'est pas parce que vous refusez les signes religieux ostentatoires dans l'espace public que vous refusez la croyance des uns et des autres.
Alors que certains dénoncent l'islamisation du sport, d'autres, comme le collectif des hijabeuses, se sont défendus ce lundi contre l'article 1 de la Fédération française de football, interdisant tout port de signes religieux lors des compétitions. Le rapporteur du Conseil d'État a donné un avis favorable, une réussite pour l'avocate du collectif.
L'ambition du sport est celle de l'intégration, celle du vivre ensemble, celle de la cohésion. Je souhaite donc que le Conseil d'État prolonge ce raisonnement et qu'il siffle définitivement la faute commise par la FFF.
Le rapporteur a cependant marqué une différence entre les compétitions nationales et locales. Les joueuses de l'équipe de France doivent rester neutres, tandis que les joueuses en équipe locale devraient pouvoir porter le hijab lors des rencontres sur le terrain. 9 magistrats vont devoir trancher sur la question. Ils rendront leur avis définitif dans un délai de 2 à 3 semaines.
Alors, cette question s'est invitée tout à l'heure lors de la séance de questions au gouvernement dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et c'est Olivier Marleix, le président du groupe LR, qui s'adressait à Elisabeth Borne. Je vous propose d'écouter la réponse de la Première ministre.
Nous sommes mobilisés pour lutter contre toutes les formes de prosélytisme et de radicalisation. Et avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et la ministre des Sports, nous sommes en première ligne pour combattre toutes les formes de séparatisme dans les clubs. 3500 clubs ont été contrôlés en 2022, dont une trentaine ont donné lieu à des mesures pour mettre fin à des dérives séparatistes. Nous allons renforcer les contrôles à la rentrée et nous n'hésiterons pas à fermer des clubs qui promeuvent une idéologie radicale ou séparatiste.
Le problème, Mickaël Sadoun, c'est que le Conseil d'État, il s'intéresse au droit et il s'intéresse au droit et uniquement au droit. Et ça, les requérantes le savent très bien.
Bien sûr, il n'y a aucun argument de droit qui permet d'interdire un port de signes religieux dans un contexte privé, en fait. Parce que quand des femmes vont jouer, en plus dans le football amateur, sur un match de foot, elles ne sont pas représentantes de la fonction publique. Or, la laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État, pas de l'Église et de la société. Il y a une neutralité qui est demandée aux agents publics, pas aux usagers de la fonction publique, et encore moins à de simples citoyens qui font du sport. Donc, le Conseil d'État, en tout cas le rapporteur du Conseil d'État, a tranché en droit et à mon avis, il a raison. La seule manière de s'opposer à ce genre de manifestation, c'est de le prendre par des sujets sécuritaires ou sanitaires, comme ça s'est fait pour le burkini,
à Grenoble,
dans les piscines de Grenoble. On pourrait peut-être arguer que le voile empêche la tenue normale d'un événement sportif. Peut-être qu'il faudrait un principe de reconnaissance entre les joueurs sur le terrain. Peut-être que ça bloque le déroulement normal d'un match de foot. Voilà le seul argument qui serait possible. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi on en parle quand même dans les médias et pourquoi il y a un malaise. Parce que là, on parle de dérive séparatiste. À mon avis, on n'est pas dans ce sujet-là parce que les femmes qui ont parlé hier à la télé n'ont pas l'air d'avoir des intentions malsaines vis-à-vis de la France. Il y a un malaise parce qu'il y a une multiplication de l'intrusion des signes islamiques un peu partout, les cantines scolaires, les abayas à l'école, l'abattage rituel, on en a parlé, évidemment le hijab dans le sport, le ramadan aussi, on en a parlé dans le sport. Donc il y a une multiplication de ces signes-là et on se rend compte que la France a fait venir des millions de personnes pendant des années, des millions de personnes qui maintenant ont envie de pratiquer normalement leur religion et ça crée un malaise parce que ça ne correspond pas à la culture commune.
Regardez ce que dit, alors on parle du droit et de l'application stricte du droit. Regardez ce que tweetait Marine Le Pen, je crois que c'était dès hier soir, le tweet de Marine Le Pen qui nous dit, oh là là, j'ai du mal à y voir, mais en gros, le hijab dans le sport, c'est non. Nous ferons une loi pour interdire cela, pour faire respecter ça. Je vous propose aussi d'écouter, et là en cela, Élodie nous dira sans doute, donnera une analyse de la réaction de Gérald Darmanin. C'était sur les ondes.
Les terrains de sport sont sans doute les derniers endroits où la neutralité religieuse, politique, syndicale est quasi parfaite. Et je pense qu'on n'a pas besoin de rediviser. surtout lorsqu'il s'agit d'associations souvent communautaristes qui veulent non pas défendre une cause très noble qui est la liberté de culte. Et moi, je suis très attaché en ces jours de l'Aïd à la liberté de culte et notamment de nos compatriotes musulmans. Mais ça n'a rien à voir avec les coups de boutoir contre la République. Et on n'a pas à porter de vêtements religieux lorsqu'on fait du sport. Donc j'y suis très opposé. Et évidemment, ce serait un coup de canif très fort contre le pacte républicain que de le permettre.
Élodie, il détonne en cela. Alors, il est fermement opposé, mais que peut-il faire concrètement ?
Alors, c'est compliqué, effectivement, pour lui. Premièrement, parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a un principe qui s'applique, c'est celui du droit. Et surtout, on voit qu'il est isolé. On a entendu juste avant la réaction de la Première ministre qui explique on est intraitable, on va renforcer les contrôles, etc. On ne sent pas, dans ces deux interventions qu'on a entendues de manière rapprochée, la même détermination. Ce n'est pas étonnant, Gérald Darmanin, qu'il soit ferme là-dessus et qu'il en soit sincèrement convaincu. Je pense que personne ne peut en douter, mais on le voit sur un certain nombre de sujets. Gérald Darmanin, il vient de la droite, il ne s'en cache pas. C'est quelqu'un qui, sur l'ordre, est extrêmement ferme. C'est moins vrai pour sa première ministre, c'est moins vrai pour son gouvernement globalement, et c'est surtout moins vrai pour sa majorité. Parce que Marine Le Pen veuille déposer une proposition de loi, pourquoi pas ? C'est ce qu'ont fait les Républicains le 26 janvier 2021 dans le cadre de la loi séparatisme, justement pour interdire le port de vêtements religieux dans le sport. Et évidemment, au Sénat, ça avait bien fonctionné puisque les sénateurs sont à majorité de droite et la majorité avait dit non. C'est de toute façon, on voit le problème, d'un côté, un ministre de l'Intérieur très ferme, une majorité qui ne suit pas. Là-dessus.
Karim Zeribi, l'issue, bon, on la connaît à peu près, hein, sauf énorme surprise, parce que dans 90% des cas, je pense que les magistrats suivent les recommandations de leurs collègues, leurs rapporteurs. Mais pourquoi, moi ce que je comprends moins, c'est pourquoi il y a ce distinguo entre amateurs stricto sensu au niveau des petits clubs et puis les équipes A, les équipes nationales. À ce moment-là, pourquoi faire un
choix de mesure ? Parce qu'on peut considérer qu'en équipe nationale, vous êtes délégataire d'une mission de service public, puisque la Fédération française de football est porteuse de cette délégation, et qu'en tant que délégataire, comme les enseignants à l'école, vous ne devez pas porter de signes religieux. Or, donc, dans le monde amateur, ça n'est pas le cas, vous n'êtes pas délégataire de service public. Moi, le problème
vous êtes
que j'ai...
Pour ou contre ?
Non,
résumé.
Encore une fois, je pense que là, vous me posez une question de manière un peu trop binaire. Je sais bien que le débat public se limite pour, contre, oui, non. C'est parfois un peu plus compliqué que ça. Moi, je suis pour qu'on applique les principes de laïcité. Est-ce qu'il y a un torse à la laïcité ? Juridiquement, la réponse est non. Michael Sadou l'a très bien rappelé. Est-ce qu'on a une radicalisation ou un séparatisme, je dirais, évident ? La réponse est non également. On ne peut pas acter que toutes les filles qui portent ce hijab font preuve de séparatisme. Au contraire, elles se mélangent aux autres. Que veut-on ? Qu'elles restent enfermées chez elles parce qu'elles portent un hijab et qu'elles ne se mélangent pas aux autres ? Moi, je trouve que tout ce qui relève, je dirais, de près ou de loin à l'islam est trop assimilé dans notre pays à de l'islamisme, du radicalisme ou du séparatisme.
Du prosélytisme.
Moi je veux que nous, ou du prosélytisme. En quoi c'est faire preuve de prosélytisme de porter un signe religieux ? À partir du moment où votre comportement, je dirais, vis-à-vis d'autrui, n'est pas de convaincre autrui à pratiquer la même religion que vous, vous ne faites pas de prosélytisme. Je trouve qu'on est dans une forme de fixette, d'obsession, de crainte permanente pour tout ce qui concerne l'islam et les musulmans. Il faut qu'on se calme un
donc
petit peu.
Pression.
Il faut qu'on lutte contre le radicalisme, contre le séparatisme et contre l'islamisme, pas contre les musulmans
mais
et l'islam.
Est-ce que ça sinon, ne va pas entraîner d'une certaine manière une pression, une forme de pression sociale ou communautaire et encourager d'autres à le faire par volonté de se conformer ? C'est une question qui se pose, Christophe.
Mais moi, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit par mes deux collègues.
Vous êtes pour aussi.
Non, mais je vais vous dire, on est tous fondamentalement attachés à la laïcité. On est fondamentalement attaché à la laïcité et la loi de 1905, c'est tout ce qu'il faut préserver dans notre pays. On est contre le séparatisme. Je m'indignerais systématiquement contre le séparatisme. Mais là, qu'est-ce que c'est en l'espèce ? En l'espèce, ce sont des jeunes femmes qui vont faire du sport. Et faire du sport et sortir de chez soi, c'est la première étape pour justement éviter l'assignation à résidence. Et je vous rappelle que c'est ça l'enjeu fondamental. Si on interdit ces jeunes femmes, elles vont rester chez elles, elles ne seront pas dans l'espace public. Et deuxième point que vous venez d'évoquer, et je suis totalement d'accord, et je me permets de faire quand même une petite critique sur votre antenne et sur votre ligne éditoriale. Si systématiquement... En lien avec l'actualité, d'ailleurs, avec ce que des collègues ont dit en question au gouvernement, parce que c'était un autre sujet,
on sur le fait que par exemple... Question, hein.
Je vous donne un point. Mais bien sûr.
Allez au bout de votre logique, parce que je
vais au bout de ma logique.
Laissez-moi l'occasion de vous contredire
aussi. J'ai l'impression qu'il y a une murdochisation. Rupert Murdoch a théorisé la manière de comment sur les lignes éditoriales on arrive à orienter
l'opinion publique.
Mais je vais vous dire, mais bien sûr, mais attendez, vous pouvez pas dire. Mais laissez-moi finir.
Il y a le Conseil d'État qui a été saisi par un collectif, on ne peut pas en parler. C'est une actualité.
Encore une fois, mais bien sûr, mais tout est actualité, comme dans le HLM. Dans le HLM. Ben en fait, non, parce que je suis sur BFM depuis tout à l'heure.
Vous pouvez pas dire qu'ils n'en ont pas parlé.
Tout à l'heure, parce que vous mettez BFM à côté, et que ça n'est pas le cas.
Mais la réalité,
c'est que le journal du dimanche et votre patron,
votre patron, on n'est pas là pour faire la politique.
Tu ne veux pas dire que vous ayez.
On n'est pas là, non, je suis désolé, on n'est pas là pour parler de ça.
Vous faites aujourd'hui le jeu de l'extrême droite sur les plateaux de télévision.
On n'est pas le JDD. On n'est pas le JDD, merci beaucoup pour cette.
Si vous ne prenez pas en compte le fait que c'est un sujet. Mais je le dis que c'est un sujet français. Mais pour beaucoup de Français, c'est un sujet d'inquiétude. Est-ce qu'on peut dire que ces femmes sont dans leur droit?
On n'en fait pas un sujet.
Légitimement, l'inquiétude de certaines populations française qui s'inquiète de l'insécurité culturelle.
Le Conseil d'État,
c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal d'en parler.
Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Donc,
moi, je suis consultant senior, monsieur le député. Vous avez vu ma position.
Non, mais
on est dans du débat. On est dans le débat. On est dans le débat. On est dans le débat.
Puisqu'on en est là.
On est dans le débat.
En quoi le sujet que vous venez de voir à une ligne éditoriale qui va dans un sens ou dans l'autre. On ne fait que reprendre. On peut le repasser, le sujet ?
On peut évidemment le repasser.
Parce que non, mais ben non.
Mais totalement. Mais moi, je confirme ce que je dis, c'est-à-dire que
c'est le Conseil d'État quand même. On parle pas d'un petit truc devant un tribunal administratif.
Par exemple, tout à l'heure, vous avez mis un sujet sur le fait qu'il y avait un monsieur qui avait violé des gens dans un immeuble, qui est absolument abominable. C'est un fait divers absolument abominable. Vous l'avez mis à 8 heures du matin. Je me suis réveillé avec ces news là-dessus. Vous l'avez mis toute la journée sur les plateaux. Et donc, il y a en fait, avec évidemment des connotations sur le fait que cette personne est d'origine marocaine, sur le fait que il y a un moment, à force de systématiquement dire ça,
on rentre dans le jeu du Rassemblement National.
Vous savez ce que vous faites, là, Christopher Weisberg ? Vous êtes en train de parler à vos administrés des Français de l'étranger.
Non, c'est pas le cas.
Mais si, vous faites de la politique.
Non, mais c'est pour ça que vous m'interviewez.
Non, mais surtout, est-ce qu'on peut considérer
qu'un fait
divers est en lien avec un fait de société ?
Donc, nous en parlons pas, en gros.
Non, c'est pas qu'on en parle pas, c'est que le français. On peut parler de tout, on peut parler de tout. Mais quand on oriente, au moment là.
Non, non, on peut. On est en train de déborder parce qu'il nous a un petit peu lancé un petit pavé dans la mare, là.
Je vais vous dire, Jean-Michel. Si, bien sûr que l'on peut et que l'on doit en parler, parce que c'est une problématique des Français. Et donc, par conséquent, on doit la reprendre et en parler. Et on s'aperçoit que sur ce sujet précis, et là, je ne vais pas être original, on est le cul entre deux chaises, entre deux positions. La position, c'est effectivement ces jeunes filles qui veulent pratiquer le foot, mais on ne sait pas si elles font de la provoque pour ça ou non.
Allez, merci.
Et de l'autre côté, un Conseil d'État qui dit la loi et rien que la loi. Et donc, il faudra trancher. Et pour trancher, il faudra trancher par une loi.
Merci, on est obligé de partir en pub. Vous savez quoi ? Dans deux jours, on fera un sondage là-dessus. Et vous serez sans doute surpris du sondage. À tout à l'heure.
Ah bah, si on fait un sondage sur la peine de mort...
Allez, on s'est un petit peu perdu en route, mais on va revenir au séjour marseillais d'Emmanuel Macron. La cité phocéenne qui, vous le savez, déplore 23 morts liées au règlement de compte du trafic de drogue depuis le début de l'année, en seulement 6 mois donc, puisqu'on arrive à la fin du mois de juin. Il a annoncé, Emmanuel Macron, l'arrivée donc d'une quatrième compagnie de CRS, la fameuse Super CRS, 25 nouveaux enquêteurs à la division criminelle et à la brigade de répression du banditisme, et puis bien sûr des task forces interministérielles pour lutter contre le trafic de drogue. Mais dans certains quartiers, la peur des habitants se vit vraiment au quotidien. Exemple, à la Castellane, je vous fais réagir derrière, Karim.
Sur les murs de la Castellane, ces tags font partie du paysage. Horaires de vente, prix des drogues, des menus destinés aux consommateurs, car le deal y est omniprésent. Pour y remédier, la police vient régulièrement, mais c'est loin d'être suffisant pour cet habitant de la cité.
C'est bien qu'ils viennent, mais c'est tous les jours qu'ils devraient venir. Tous les jours, il faudrait qu'il y ait une présence de policiers, tous les jours.
D'après lui, la présence de l'armée pourrait être la seule solution.
L'armée vient, en 15 jours, c'est réglé. Voilà. C'est l'armée qu'il faut mettre.
Pour sécuriser leur point de vente, les dealers ont installé des barricades et filtrent les entrées. Résultat, médecins ou pompiers refusent de venir, comme l'explique cette habitante.
Les services qu'on a, par exemple, si on a des problèmes dans les appartements, donc pareil, ils ne viennent pas, ils sont arrêtés.
Autre difficulté décrite par une mère de famille, circuler dans la cité le soir. D'après elle, le quartier est trop sale et trop dangereux.
La lumière, il y a plein de rats. Et si ça tire, on a peur.
Craignant les balles perdues, l'un de ses enfants handicapés préfère ne pas sortir.
Si jamais ça tire, il ne peut pas cavaler, il est trop gros. Oui, pourquoi voilà.
Les guerres de territoire où les règlements de compte continuent de faire des victimes dans les quartiers nord. 23 personnes sont mortes depuis le début de l'année.
Bon, Karim Zeribi, vous le connaissez bien, j'imagine, ce quartier. C'est en lien direct avec ce que vous nous expliquiez précédemment, hein, sur ces gens qui font les frais directement de ce trafic.
J'habite à quelques centaines de mètres de la Castellane. Je rencontre les habitants à chaque fois que je me rends à Marseille. J'ai de la famille qui habite dans ces quartiers nord. C'est invivable. Mais disons les choses clairement. Ce sont des territoires qui sont en dehors de la République. C'est inacceptable ce qu'on laisse faire. Donc il y a de l'insalubrité, il y a de la saleté, il y a des bandes de criminels qui mettent sous coupe sombre ces quartiers, qui les contrôlent à l'entrée et à la sortie.
Il y a du racket aussi au passage.
Excusez-moi, c'est pas normal. Et ces habitants, ils sont français ou étrangers en situation régulière, ils veulent de la police, ils veulent de la République. Entendons-les. Quand il y a 10 000 habitants, il y a 200 voyous organisés qui les terrorisent. Et qui font du trafic d'armes, font du trafic de drogue. Jusqu'à quand nous allons accepter ça en République? C'est indigne de notre pays. On ne peut pas l'accepter. Donc il faut mettre de gros moyens et il faut nettoyer ces quartiers pour que les gens vivent tranquillement. Merci. C'est ce qu'ils demandent.
Merci, c'était le cri du cœur en guise de conclusion. Merci à vous, 5 de nous avoir rejoints cet après-midi. Dans un instant, on se retrouve pour passer le flambeau à Laurence Ferrari. À tout de suite.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.